René Bazin, Madame d'Or, chapitre 2. Le lendemain soir, quand j'entrais dans la salle à manger de l'hôtel de la Marine, mes deux commensaux habituels, de jeunes paysagistes, achevaient de dîner. L'un d'eux, qui a la barbe et les yeux luisants comme du jais et qui ne fait que des marines grises, me dit « Les Trégoses sont arrivées par le dernier bateau du fret. Le saviez-vous ? » « Non, mais j'ai tant entendu parler d'eux que je serais content de les voir. Comment est-elle, cette Madame Trégose ? » « De l'espèce brune qui n'est jamais jolie en Bretagne. Il n'y a que les blondes pâles ici et les rousses dorées qui ont des types de l'autre monde quand elles s'en mêlent. Et encore, toute leur poésie tient sous leur bonnet. Pas de pieds, pas de mains, pas de taille. On disait pourtant « Non, un petit minois chiffonné, des cheveux sur le front, beaucoup d'aplomb, un très joli teint par exemple. Et le mari ? Quelconque, forestier ou roulier à votre choix. Trapu, barbe châtain en carré, grand mangeur, l'assurance d'un homme qui est le premier dans son bourg, de l'élocution, la prétention de réussir dans tout ce qu'il n'a pas entrepris, très négligent de ses sardines. Cette pauvre petite Madame Trégose, nous l'avons connue jeune fille, Maxime et moi, il y a 10 ans que nous venons ici. Mon Dieu, c'était précisément quelques mois avant son mariage. Elle n'était pas jolie mais agréable, très éveillée, très coquette et rieuse comme un pinson au soleil. Vous avez dû voir ces bandes de jeunesse qui, le soir, barre la jetée et met une note claire dans ce pays brumeux. Au milieu d'elle, Blanche d'Or était une vraie reine, entourée, fêtée, flattée. Elle donnait le ton au mode de Camaret. Sa coiffe était toujours ou plus petite, ou plus élégamment retroussée que les autres. Elle y piquait une épingle d'argent, elle y mêlait un ruban dont la transparence, à travers la mousseline, faisait valoir ses cheveux bruns. Comme elle cambrait sa taille, comme elle se courbait pour conter une histoire à demi-voix, une histoire dont on riait autour d'elle, toujours, et qui rendait jalouses les files voisines où l'on causait seulement de choses tranquilles et tout ordinaires. Où qu'elle fût, quoi qu'elle fît, il fallait qu'elle se distinguât des autres, et rien ne lui plaisait autant que d'entendre les anciens du port, juges de toutes ces promeneuses, leurs petites filles, leurs petites nièces, enfants adoptives, en tout cas de la grande famille marine, dire en la regardant « Quelle gentille brune fille tout de même ! Est-ce qu'elle est drôle, voyez donc ! Elles ont toutes le bec ouvert comme des mouettes pour l'entendre. » Drôle, je ne sais pas, mais inconséquente certainement. Je ne dis pas sans cœur, mais bien sûr sans cervelle. Plusieurs marins l'avaient aimée. L'un d'eux, que j'ai connu aussi, un beau quartier-maître de timonerie qui revenait de Chine, a passé tout le temps de son congé ici à la regarder, à lui faire la cour, à attendre une réponse. Elle s'est laissée courtiser, sans dire oui, sans dire non. Finalement, Trégose est arrivé de Brest. Il n'avait pas le sou, on le disait assez mauvais sujet, mais c'était un monsieur. Elle l'a pris, et elle a donné congé à l'autre, qui s'en est allé mourir au Japon, bien loin, très tristement, en tombant d'une vergue, d'autres prétendent en se jetant dans la mer. Elle fait bon ménage avec son mari ? Je le croirais. Elle a une admiration de linotte pour cet oison. Pourvu qu'elle ait un chapeau dans un pays où l'on porte des bonnets, une broche de cornaline ou de doublé, un paroissien à faire morniqueler et qu'on l'appelle Madame Trégose, c'est une femme à se dire heureuse. Ces bonheurs-là lui suffisent. Ce qui n'empêche pas que c'est un sot mariage. Si elle n'en souffre pas, j'en connais une autre qui en souffre pour deux. Madame d'Or, pauvre femme. Elle a eu la faiblesse d'y pousser sa fille. Je crois qu'elle s'en repent cruellement. On ne l'écoute plus, on ne la consulte pas, on se moque de ses façons de village. Dieu sait pourtant qu'elle les vaut tous deux dans le bout de son petit doigt. En voilà une maîtresse femme, une vieille charmante, et supérieurement dans son cadre à Camaret. Avez-vous quelquefois étudié le gris de ses yeux-là? La teinte des plages mouillées, ou des eaux qui dorment, tenez, comme hier soir, toutes voilées de brouillard. Je fais son portrait pour le salon, en cape noire, sortant de l'église, avec Guillaume qu'elle tient par la main. Un petit qu'elle aime follement. Vous pourriez presque dire qu'elle aime seule. La mère s'occupe à peine de lui, si ce n'est pour le fouetter quand il tombe dans une mare. Pauvre grand-maman d'or. Elle n'avait pas l'air d'emmener long ce soir. J'ai assisté au retour de Brest. À peine débarqués, sur un mot qu'elle leur a dit de la sardinerie de M. Trégoz, ils ont eu l'air de partir en guerre, et la brave femme s'est tue. Au ton qu'ils prenaient, je serais étonnée s'ils n'avaient pas quelque projet nouveau. « Viens-tu, Maxime ?» Les peintres quittèrent la salle, et je demeurai seule en face des deux briques goélettes qui la décorent, l'un dessiné en tapisserie, l'autre peint à l'aquarelle, sans un barreau de moins aux échelles de cordes, sans un bout de ficelle oublié. Ma solitude ne fut pas longue. Une simple cloison basse, surmontée d'un vitrage, séparait la salle à manger commune d'une petite pièce sombre où Madame d'Or prenait ses repas. La porte de cette pièce s'ouvrit, et je vis entrer, avec Madame d'Or et Guillaume, Monsieur et Madame Trégoz, ressemblant tous deux, trait pour trait, à la description qu'on venait de m'en faire. Ils s'assirent autour de la table, d'ordinaire plié aux deux tiers et rangé le long d'un mur. Madame d'Or paraissait triste, et Guillaume éteint par la présence de ses parents. Ceux-ci causaient très haut, la jeune femme surtout, sans aucun souci de n'être pas entendue. Ils continuaient évidemment une conversation commencée dès leur arrivée, une sorte de monologue plutôt, argumentant l'un après l'autre dans le même sens pour convaincre la grand-mère, qui répondait seulement des mots, très doucement et posément, de l'air d'une personne à qui l'on n'en impose plus avec des phrases, qui sait l'inutilité de la lutte, qui mesure ses objections et ne les présente que pour l'acquis de sa conscience. Il s'agissait pour les Trégoz d'un projet d'établissement à Brest, une position superbe naturellement, la direction d'un entrepôt de vin d'Espagne offerte aux rares capacités commerciales du sardinier, une affaire rare et de tout repos. Et vraiment, la petite Madame Trégoz était indignée de la façon dont Madame d'Or accueillait un projet aussi sérieusement mûri, des perspectives si brillantes de fortune. Les moindres défenses de la pauvre femme, son silence même était aigrement relevé. « Mon Dieu, maman, disait Madame Trégoz, si tu ne veux rien entendre, il est bien inutile de continuer. Nous ne sommes pas forcés de te raconter nos affaires. En te parlant comme nous faisons, nous te donnons, je crois, une preuve de confiance. » Madame d'Or sentait bien l'inconvenance de ces mots-là, dit à une mère. Toutes les rides de son vieux visage étaient comme creusées par l'émotion qui contractait ses traits. Cependant, elle répondait sans amertume, les yeux mi-fermés pour qu'on n'y pût pas lire toute sa pensée. « Sans doute, ma fille, sans doute. Alors pourquoi nous fais-tu pareille mine depuis une heure? À Brest, nous ne serons pas loin de toi, nous ne serons pas perdus. Est-ce que tu douterais de la réussite par hasard? Je ne dis pas cela. » « Ce serait un peu fort. Est-ce une raison parce que Trégoz n'a pas été heureux ici, dans ce trou de Camaret, pour que l'ambition lui soit défendue ? Ce qui l'a empêché de réussir, vois-tu, c'est l'absence d'un théâtre suffisant pour son activité. Je le connais bien, mieux que personne. Il a toujours eu des aptitudes pour les grandes affaires. » Contente de ce mot élégant « d'aptitude » qu'elle jetait à sa mère comme un argument, Madame Trégoz s'arrêta de parler. Son mari l'approuva d'un mouvement lent de sa barbe, et dit « Rien n'est plus vrai. Tous ceux qui me connaissent, excepté vous, Madame d'Or, savent que je suis née pour les grandes affaires. » Madame d'Or sourit tristement. « Vous l'auriez mieux prouvé en réussissant dans les petites, » répondit-elle. « Mais là n'est pas la question. Vous voilà avec de nouveaux projets en tête. J'aime à croire qu'ils sont bons. Étudiez-les, prenez votre temps, rien ne presse. Au contraire, madame, rien ne presse davantage. Vous n'êtes pas engagée. » « Si, madame. » « Vous avez signé ?»« Hier matin. » »« Mais au moins, Trégoz, » reprit Madame d'Or, devenue toute pâle de saisissement, « vous avez dû demander un délai pour liquider votre situation à Camaret, pour trouver acquéreur de la sardinerie. Il ne se peut pas que vous abandonniez le pays tout de suite. Ces choses-là ne se font pas dans un jour. »« La boutique ?» interrompit Trégoz. « Elle est vendue. »« Vendue ?»« Mon successeur entre en possession la semaine prochaine. » »« Et vous ?» Moi, je pars à la même date, naturellement. Dans 8 jours ? Sans doute. J'ai mené ça rondement, vous voyez. La pauvre grand-mère s'était un peu reculée de la table, et comme si elle ne voulait pas y croire encore, comme pour y chercher un démenti ou seulement un peu de pitié, elle regardait alternativement Madame Trégoz, impertinente, la tête levée, et son gendre, qui répétait avec une satisfaction égoïste que ne traversait ni un regret, ni le sentiment même de la brutalité de ses paroles. « J'ai mené ça rondement. » Tant de deuil tenait pour elle dans ces mots. C'était la condamnation de ce mariage qu'elle avait désiré, la preuve que son propre conseil n'importait plus à ses enfants, une ruine déguisée pour eux et qui ne tromperait personne. Pour elle, l'abandon, la solitude et la vieillesse délaissée dans ce camaret qu'elle avait habité jeune, riche et envié. Ils allaient partir. Encore si ce n'avait été que Trégoz et sa femme. Il y avait longtemps, hélas, que dans le cœur de la mère, le sacrifice était à peu près consommé, qu'elle avait senti sa fille se détacher d'elle peu à peu, avec la lenteur des tendresses qui se relâchent et des pierres qui se fendent. Car les affections ne se brisent que quand elles sont usées. Mais Guillaume, l'enfant dont l'amour naïf la consolait, lui donnait le droit d'aimer encore la vie, ce petit sur lequel son âme froissée, repoussée par d'autres, s'était repliée, l'espoir dernier de sa race qui lui rappelait les hommes disparus, se le voir aussi enlevé. Voilà ce qui dépassait les autres douleurs et le courage de Madame d'Or. Et quand elle eut considéré un peu de temps son gendre et sa fille, muets tous deux, gênés et comme irrités de ce chagrin sans phrase et jusqu'à présent sans larmes de la vieille mère, elle sentit que c'était bien à jamais fini de ce côté. Il ne lui était plus rien, il ne l'aimait plus. Elle se pencha vers Guillaume qui dormait à demi, attira la tête brune qui ne se défendit pas, la posa sur son maigre sein tendu de noir, à l'endroit où il battait plus vite que de coutume. Tout de suite, dans ce nid chaud, bercé par ce cœur tout occupé de lui, l'enfant ferma les yeux. Et, le voyant, abandonné ainsi et confiant dans ses bras, songeant qu'elle avait là son dernier ami et qu'il allait partir, la grand-mère se courba au-dessus de lui, bien bas, et silencieusement se mit à pleurer. Pendant qu'elle le tenait enveloppé, serré contre sa poitrine, une idée lui vint. Il y a des mots mystérieux qui s'échangent ainsi entre les mères et les petits endormis sur leurs genoux. L'enfant ne remua pas les lèvres, et pourtant elle comprit. Elle redressa la tête lentement. Les Trégoz écartèrent leurs chaises de la table et se levèrent. Ils craignaient une explication. Trégoz voulut la prévenir et dit « Je n'aime pas les scènes, madame, je vous en avertis. Vos reproches ne changeront rien à une décision qui est irrévocable. » Par conséquent, il fit un mouvement pour sortir. « Je ne vous reproche rien, dit madame d'Or. Je n'ai qu'un désir, un seul. Suivre votre fille, n'est-ce pas, le rêve de toutes les mères ?»« Non, mon ami, répondit madame d'Or. » Elle rabaissa son regard vers le petit Guillaume pour s'assurer qu'il n'entendait rien. Le cher visage, attiédi par le sein de l'aïeul, reposait. La roseur brune de la vie éclatait sur ses joues. Une ombre y tombait des cils appesantis. Il avait le rêve souriant des âmes que leur jeunesse fait proche de Dieu. Madame d'Or ajouta, très doucement pour qu'il ne s'éveillât pas, « Je voudrais l'enfant. Laissez-le-moi. Quand ce ne serait qu'un peu de temps pour m'habituer. Comme cela, vous ne seriez pas tout à fait parti. Et puis, il vous gênera pour votre aménagement. Vous aurez beaucoup de travail et d'affaires dans les premiers moments, une installation nouvelle, tant de choses. Moi, je pourrais si bien m'occuper de lui. Laissez-le-moi, dites. N'est-ce pas que vous le permettez? N'est-ce pas, Blanche, que tu veux bien? Je vous en prie. » Trégoz était une nature très égoïste et très lourde. Cependant, il n'était pas méchant. Quand aucun de ses intérêts ou de ses plaisirs ne s'en trouvait sacrifié, il ne demandait pas mieux que de se montrer généreux. Il échangea un coup d'œil rapide avec sa femme et répondit « Eh bien, gardez-le. Vous voyez que nous ne sommes pas de mauvais enfants. Il suffit que vous exprimiez convenablement un désir pour que nous disions oui. » Madame Trégoz passa près de sa mère sans l'embrasser, se trouvant sans doute offensée de tous les reproches muets qu'elle avait devinés, elle, plus avisée que son mari, dans la douleur contrainte de sa mère. Trégoz la suivit. Ils gagnèrent la porte. Madame d'Or demeura seule avec son petit-fils endormi. Peu à peu, à force de le contempler, ses yeux se séchèrent. Des visions, sans doute, l'évocation de l'avenir doré que rêvent les aïeules pour les petits qu'elles ont bercés, combattaient les tristesses du présent. Que voyait-elle, enveloppant de son regard ce rude et bel enfant? Pourquoi son visage ridé paraissait-il quelquefois sur le point de sourire? Que murmurait-elle pour que ses lèvres tremblassent ainsi sous le feu de la lampe qui laissait seulement dans l'ombre le haut de son visage? Une prière, sans doute aussi des noms chéris, qu'elle mêlait comme pour rattacher et renouer tout ce que le passé et le présent lui offraient de consolation en la grande détresse de son cœur. Camaret, Corentin, Guillaume. Quand je quittai la salle voisine, Madame d'Or était encore penchée, songeuse, presque tranquille, et Guillaume Trégosse dormait toujours entre ses bras. Les jours qui suivirent, c'est à peine si je rencontrai la maîtresse de l'hôtel de la Marine. Bonne et serviable à l'excès, elle avait voulu aider au déménagement des Trégosse qui s'opéraient lentement. Des charretées de mobilier passaient en cahotant devant mes fenêtres. L'Amélie, amarrée le long d'une cale, en quelques voyages de son petit palan criard, enfouissait le chargement dans sa coque, ouvrait sa voile au vent et courait ses bordées sur l'eau bleue vers le goulet. Quand elle eut fini de transporter le mobilier à la ville, elle fit un dernier voyage pour emmener les Trégosse. C'était un lundi vers le soir. J'aperçus Madame d'Or sur la jetée qui tourne, près du feu du port, qu'entoure une haute rampe de granit. Elle était debout et la main posée horizontalement au-dessus des yeux, suivait une voile très éloignée déjà, qui allait, semblait-il, doubler la pointe des Capucins. « Que regardez-vous ainsi, Madame d'Or ?»« Mes enfants, me répondit-elle, ils vont entrer dans le goulet avec le courant, et dans une heure, si la brise ne mollit pas, ils seront à Brest. » Je fus étonnée du ton de tranquillité dont elle me dit cela. Elle semblait bien un peu triste, mais elle ne pleurait pas. Et presque aussitôt j'en compris la raison. Une troupe de gamins pêchait près de nous, toutes leurs têtes alignées au-dessus du parapet, tenant chacun une ligne en ficelle. Tout à coup, une exclamation s'éleva. L'un d'eux tirait de l'eau un poisson multicolore nué comme l'arc-en-ciel. Et les autres criaient. « Le gars Trégosse a piqué une vieille. Regardez, regardez !» En effet, c'était bien Guillaume, rougissant de plaisir, qui tirait sa ligne à la brasse. « Ah, Madame d'Or, dis-je à la vieille femme, vous avez gardé Guillaume ?» À travers les larmes retenues qui mouillaient le bord de ses paupières, elle sourit, et je vis que ce sourire serait bientôt plus fort que les larmes. « Oui, me dit-elle, ils me l'ont laissé pour le temps de leur aménagement. Ce sera au moins 2 mois, peut-être 3 et même. » « Tenez, elle se pencha vers moi. Je ne sais pourquoi, j'espère que ce sera pour plus longtemps. Blanche n'est pas autant sa mère que moi. Il ne lui manquera pas autant qu'il m'eût manqué. » Elle leva encore une fois les yeux vers le large. On n'apercevait plus la coque noire du bateau, mais seulement la voile blanche et courbée comme une pétale d'un lys du grand jardin qu'on aurait posé sur l'eau et qui fuyait. Une minute s'écoula. La blancheur s'évanouit derrière les roches pâles du cap. Les Trégosse avaient quitté Camaret et Guillaume lançait de nouveau sa ligne dans les tourbillons transparents qui venaient battre la jetée.